Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Amérique et vous, Lionel Manila Gahima sur la mise en onde, Eric Manila Kiza avec vous au micro de VOA Afrique depuis la capitale américaine. Les États-Unis ont commémoré lundi l'assassinat de Martin Luther King Jr., leader des droits civiques. Des membres de sa famille ont pris part aux manifestations à Washington. Son fils a averti que de nombreux États ont adopté des lois qui rendent le vote plus difficile. Plus d'un demi-siècle après les discours historiques de son père, la manifestation visait à soutenir la loi sur la liberté de vote adoptée par la Chambre des représentants la semaine dernière et examinée mardi par le Sénat. Dans une ultime tentative, l'état-major démocrate a essayé de pousser le texte avec ses seules voix via une option dite nucléaire, mais deux sénateurs de son camp, Kristen Sinema et Joe Manchin, se sont opposés à cette procédure. Ce soir, nous accueillons trois invités. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Vous êtes membre du Parti républicain. Bonsoir, Monsieur Cohen.
Bonsoir.
Jean-Pierre Bonguila, professeur de leadership à l'Université Saint-Thomas dans le Minnesota. Bonsoir, Jean-Pierre.
Bonsoir, Eric.
Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Bonsoir, Monsieur Mbodj.
Bonsoir.
À l'unisson, les manifestants ont demandé au Congrès d'adopter cette vaste réforme censée protéger l'accès au vote qui est pour l'instant enterré par le Sénat. Jean-Pierre Bonguila, la pression des manifestants n'a pas eu d'effet. À quoi profite le statu quo et quels pourraient être les effets sur la société américaine dans son ensemble?
Le 15 janvier dernier, l'Amérique a fêté plutôt la naissance de Martin Luther King. Je crois que c'est à cela que se référait la fête plutôt que à son assassinat. S'agissant maintenant de votre question sur la pression des manifestants, oui, cette pression n'a pas commencé aujourd'hui, mais nous devons savoir d'abord ce qui est à l'origine de cette pression. Il s'agit de uniformiser les règles de vote dans les 50 États des États-Unis. Ça, c'est la question qui est présente maintenant à la mémoire des gens. Mais les manifestations pour obtenir le vote des minorités n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous pouvons dire que la dernière manifestation en date n'a pas réussi. Mais je ne pense pas que c'est de cette manière-là qu'on devrait voir la réussite d'une manifestation comme celle-là. Pour mémoire, nous devons savoir que c'est en 1965 qu'on a eu le Voting Rights Act aux États-Unis, le droit de voter aux États-Unis, qu'on a eu ça pour les minorités. Mais cela a pris beaucoup de temps, beaucoup de manifestations, et Martin Luther King, qui a dû obtenir ça, a fait beaucoup de manifestations, beaucoup de marches. Selma, notamment, est l'une des marches qu'il a dû faire pour arriver à obtenir ce droit-là que les Noirs peuvent arriver à voter. Mais je voudrais corriger une chose. Le droit de vote lui-même avait été octroyé en 1870, ce qu'ils ont appelé le droit de vote pour les esclaves. Et ça, c'était le 15e amendement de la Constitution américaine. Mais vous vous rendez compte que il fallait attendre toutes ces années ici pour qu'en 1965, on obtienne comme un droit réel de voter. Tout cela a été barricadé par des subterfuges, surtout des États du Sud, qui ne voulaient pas voir que les minorités votent. Bref, je dirais qu'il y a eu comme un échec, mais ça prendra beaucoup de temps pour qu'on arrive vraiment à franchir les Noirs, et non seulement les Noirs, mais les minorités, pour que réellement elles arrivent à voter. Je suis optimiste que cela va se faire, peut-être pas demain. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Biden a échoué, mais dans 2 ans, il n'aura pas échoué. Et maintenant, on a la question de savoir qui bénéficie du fait qu'on n'arrive pas à régler la mesure de vote pour les minorités. Il y a un article que je lisais qui disait que les Noirs, quand les Noirs votent, c'est tout le monde qui gagne aux États-Unis. Ça veut dire que pour l'instant, la population a changé. Ce n'est plus seulement la population blanche qui est majoritaire, de plus en plus elle est minoritaire. Mais malheureusement, on a l'impression que cette population minoritaire voudrait s'accaparer encore le droit de faire les choses exclusivement dans le pays. Certains pourraient dire que c'est cette minorité-là qui est aujourd'hui majoritaire, qui est en train de bénéficier du fait que la minorité ne peut pas accéder au suffrage comme il faut. Mais je ne dirais pas cela, je dirais que tout le monde est en train de perdre si jamais une minorité dans un pays ne peut pas voter. La démocratie est en train de perdre. Mais je suis optimiste que cela va se faire du jour au lendemain.
Joe Biden s'est dit profondément déçu mercredi que le Sénat américain ait enterré sa réforme électorale. Le président promettait de protéger l'accès aux urnes des Africains américains et, ce faisant, annuler une série de restrictions adoptées dans une quinzaine d'États conservateurs depuis la présidentielle de 2020. Herman Cohen, selon les ONG, ces restrictions discriminent délibérément les électeurs noirs. Votre commentaire?
Oui, je vois que c'est la discrimination dans ces États contrôlés où le Parlement de ces États sont contrôlés par le Parti républicain. Et cette partie-là a été prise en charge par les gens de Donald Trump. C'est-à-dire qu'ils se sont fait élire dans le Parlement de ces États et ils sont en train maintenant de changer des choses pour le vote et pour supprimer les votes des gens de couleur. Par exemple, vous avez une circonscription où les gens de couleur sont en majorité. Donc, au lieu d'avoir 5 points de vote ou bureaux de vote, vous avez un seul. Donc, pour ces gens-là, il faut rester faire la queue pendant 10 heures avant de voter. C'est décourageant. Donc, ces parlements de ces États contrôlés par les gens de Trump font tout pour décourager les votes des gens de couleur. Et pour le moment, ils sont en train de réussir parce que le projet de loi de président Biden, qui n'a pas passé le Sénat, qui n'a pas voté pour le Sénat, ça devait corriger tout ça. Mais comme il n'a pas réussi, ces États-là sont en train de supprimer les votes des gens de couleur.
Mohamed Mbodj, est-ce que le droit de vote aux États-Unis est réellement menacé aujourd'hui ou on exagère trop? La tentative infructueuse des démocrates est perçue par certains comme une réforme de circonstances.
Le droit de vote est nominal et en tant que tel, il n'est pas menacé, disons. Personne ne va interdire à quelqu'un de voter simplement à cause de la couleur de sa peau ou que c'est comme ça. Mais c'est plutôt les modalités de vote. Et comme ambassadeur Cohen l'a dit, lorsque, par exemple, dans une élection, dans un canton, dans une circonscription, il y a des 5 ou 10 ou 10 bureaux où les gens peuvent voter, il est évident que c'est plus facile. Parce qu'il y aura un bureau de vote proche de presque chaque électeur. Et s'il n'y a qu'un seul bureau de vote, beaucoup de personnes, des personnes qui ne sont pas véhiculées, par exemple, des personnes qui ne peuvent pas s'absenter pendant 2 ou 3 heures de temps rien que pour voter et reculer à leur travail, etc. Et il se trouve que toutes ces personnes qui sont gênées, disons, aux antilles pour pouvoir voter sont effectivement des Noirs américains. Et un peu dans le sud aussi, ce qu'on peut appeler une population immigrante récente de souche hispanique. Mais surtout les Noirs américains sont vraiment affectés par ces lois. Surtout qu'il y a ce vieux souvenir que le 15e amendement leur a donné effectivement le droit de vote dans ce pays, qui ne peut pas être contesté. Mais il a fallu une centaine d'années pour que leur droit de vote soit effectif, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun obstacle du genre « savez-vous lire ou écrire ?» du genre « est-ce que vraiment votre parent ou votre grand-parent a vécu dans cette circonscription ?» Toutes ces barrières ont été levées en 1965 et il y avait toute une série de mesures pour faire en sorte que ces empêchements pour le vote, en particulier des Noirs américains, ne soient pas remis en place. Mais effectivement, avec la donnée de la législation, ou plutôt l'arrêt de la Cour suprême, en 2015, je crois, il a rendu possible cet arrêt, le rétablissement de ce genre de mesures, qui sans dire qu'on ne veut pas que les Noirs votent, mais en réalité, c'est à ce qu'ils puissent diminuer la capacité des Noirs qui sont pauvres, qui sont moins véhiculés que les Blancs qui habitent dans des endroits un peu plus isolés, allant même jusqu'à interdire la possibilité d'offrir de l'eau à des gens qui font la queue pour entrer dans le bureau de vote. Donc, effectivement, toutes ces mesures qui sont votées dans des assemblées d'État dominées par les Républicains, manifestement, sous prétexte de lutter contre une fraude qui, d'ailleurs, n'est pas prouvé. Lors des dernières élections présidentielles, je pense que les cas de fraude qui ont été avérés sur toute l'étendue des États-Unis, je suis sûr que ça se compte à moins de 10 et on parle de dizaines de millions, presque 100 millions d'Américains qui ont voté. Il est évident que de ce point de vue-là, il n'y a pas de fraude contre laquelle effectivement ces mesures vont prévaloir. C'est plutôt l'effet recherché, ce sera plutôt de réduire la capacité, la facilité pour les Noirs de pouvoir voter.
Vous écoutez l'Amérique, vous, Eric Manelakiza, en votre compagnie. Martin Luther King Jr. a dénoncé en 1963 le filibuster, disant qu'il permet à la minorité de contrôler la majorité. Cette procédure législative demeure toujours et l'opposition républicaine a fait bloc mercredi soir en privant les démocrates de la supermajorité de 60 voix requises au Sénat pour clore les débats et soumettre le texte au vote. Faut-il réformer le système de vote des lois au Sénat américain, Jean-Pierre Bangila?
Ça, c'est une question très grande et très importante. D'abord, je voudrais parler un peu de ce filibuster qui est en fait la flibuste, venant d'ailleurs de la piraterie. Et les gens appellent ça une obstruction parlementaire qui empêcherait en fait le côté majoritaire du Sénat d'aller directement vers le vote de certaines lois. Et donc, tout le monde a utilisé cela. Les démocrates, quand ils étaient minoritaires, ont utilisé cela à plusieurs reprises. Et les républicains sont en train d'utiliser la flibuste maintenant encore, pour le cas de Biden, comme vous l'avez bien dit. Je trouve que pour restructurer les choses, personnellement, je me dis que la flibuste donne une voix à la minorité. En fait, je me dirais que ce n'est pas une mauvaise chose, mais je ne voudrais pas faire une analyse tout à fait personnelle. Je m'appuie aussi sur certains auteurs comme Bollman et Deal qui ont écrit énormément sur la restructuration de l'organisation. Je verrai quatre choses dans cela sur le plan structurel. Je dis que le filibuster ne favorise pas tout à fait l'avancement de certains projets de loi, notamment la loi électorale dont nous sommes en train de parler pour l'instant. Sur le plan structurel, c'est quelque chose qui demande d'être changé. Sur le plan politique, ça signifie les relations entre les sénateurs, les relations entre humains. Et je trouve que c'est quelque chose de positif parce que ça permet quand même aux deux camps de dialoguer. Que ça ne soit pas seulement une décision, par exemple, des démocrates aujourd'hui, de renforcer les mesures de vote des minorités, mais que cela émane aussi d'une décision voulue de la part de la minorité républicaine pour l'instant. Sur le plan symbolique, je trouve que la flibuste appartient notamment au Sénat américain. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Et comme symbole, j'appuie que c'est quelque chose de positif, dans le sens où les deux camps peuvent parler pour arriver à des décisions purement démocratiques. Mais aussi sur le plan humain. Sur le plan humain, je me dis, bon, c'est quelque chose de bon parce que la négociation entre deux partis politiques favorise une certaine amitié, une certaine collégialité qui vaut la peine dans une république. En général, je dirais que c'est une bonne chose, mais la structure doit changer dans le sens où on doit donner une certaine voix à la minorité, mais en même temps, il ne faudrait pas que ça bloque les déroulements nécessaires d'une démocratie. Ça signifie que les lois, notamment pour l'instant, ne doivent pas être bloquées parce que nous savons, comme l'ambassadeur Cohen l'avait bien dit, les républicains pour l'instant sont comme capturés par Donald Trump. Et nous avons entendu Biden dire ça hier, qu'il y a 5 sénateurs républicains qui sont allés le voir pour lui dire « Nous sommes en faveur de ce que vous dites là, notamment, en faveur d'étendre le droit d'élection à tout le monde, mais nous avons peur. » Ils ont peur de qui? Ils ont peur de Trump. Donc je me dis que pour appliquer cela, le filibuster, il vaut mieux que nous tenions en considération aussi certains contextes. Le contexte actuel demande que cette loi-là, cette mesure-là soit abrogée.
Sur Twitter, le président Biden dit, je cite, « Je suis déçu, mais je ne suis pas découragé. » assurant qu'il ne relâcherait pas ses efforts sur ce dossier. Et Herman Cohen, quelles sont les autres marges de manœuvre à sa disposition, ou tout simplement il a épuisé toutes les options?
Oh, je ne crois pas qu'il a vraiment épuisé, parce qu'il faut 60 votes et il a voulu changer le règlement seulement pour ce projet de loi, pour qu'il y ait 50 votes pour faire passer. Mais il y avait deux sénateurs démocrates qui ont refusé de changer le règlement. Mais je crois que petit à petit, on peut persuader ces deux sénateurs, ou au minimum un des sénateurs, de changer leur avis. Ou peut-être on peut persuader un autre républicain de changer l'avis. Le problème au Sénat, c'est que chacun des 50 États a deux sénateurs. Donc, vous avez un État comme Californie avec 45 millions de citoyens, et vous avez un État comme Wyoming avec moins de 1 million. Et chacun de ces deux États ont deux sénateurs. Donc, c'est vraiment pas démocratique. Et c'est possible d'avoir 40% des sénateurs qui contrôlent 60% des citoyens et vice-versa. Mais je trouve qu'il y a toujours des choses à échanger dans le système démocratique. Moi, je voudrais changer le règlement sur le filibuster. Vous, sénateur Manchin, un des deux démocrates qui refuse le changement de règles, vous, sénateur Manchin, vous voulez construire un nouveau pont dans votre circonscription. OK, bien sûr, je vais autoriser le nouveau pont, mais il faut changer le règlement pour faire passer mon passage de loi sur les votes. Donc, je crois que Biden, qui a très beaucoup d'expérience dans le Sénat, 30 ans, je crois qu'il a trouvé une solution pour ça.
Des participants à la marche de lundi ont fait écho aux demandes formulées par Martin Luther King Jr. il y a plus de 60 ans, en scandant « Que voulons-nous le droit de vote ? Quand le voulons-nous maintenant ?» Mohamed Mbodj, est-ce l'histoire qui se répète ?
D'une certaine façon, oui. Parce qu'il est évident que les États-Unis pensaient avoir tiré la page du racisme actif et du racisme créé par les institutions politiques, avec donc le Civil Rights Act de 1965. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a des règles parlementaires et d'autres qui font que ce droit de vote peut être empêché de façon technique, sans d'ailleurs dire que, en fait, c'est contre les Noirs ou contre les démocrates ou contre les autres, mais simplement en créant donc des obstacles techniques. Et il faut se souvenir que le filibuster n'existe pas dans la Constitution américaine. C'est en 1805 que le vice-président Burr proposa cette règle pour empêcher, disons, une majorité automatique de voter des lois extrêmement importantes. Et même cette majorité peut refuser de débattre d'une loi, sans dire qu'ils vont pouvoir faire passer les votes. Et donc, le Sénat accepta donc de créer cette règle de 60%, alors que la Chambre des représentants décida de continuer de fonctionner comme auparavant, avec une majorité simple. Donc, l'origine de ce filibuster lui-même est assez controversé, et il a été plus ou moins utilisé, en particulier par les sénateurs du Sud, pour freiner des quatre pairs, donc beaucoup de réformes qu'ils pensaient aller changer, disons, la façon de vivre des gens du Sud, donc dans les années 20, dans les années 60. Donc ce filibuster a toujours été utilisé et a eu un impact sur la situation des Noirs d'une façon générale, surtout dans le sud des États-Unis. Mais maintenant, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a plus de sud et nord des États-Unis, et qu'en réalité, cet impact va se retrouver aussi dans des États traditionnellement, qui ne sont pas traditionnellement, pas dans le sud. Et donc, comme ambassadeur Cohen l'a dit, on se retrouve dans une situation où, fondamentalement, un État comme le Wyoming peut décider de ce que l'État de New York ou l'État de Californie peut faire ou ne pas faire, et que cela au nom du respect des droits, ou plutôt de la protection des droits de la minorité. Et maintenant, évidemment, comme il le dit, Biden est un animal politique, entre guillemets, qui a passé une grande partie de sa vie au Sénat. Et très certainement, beaucoup de gens, effectivement, lorsqu'on lit entre les lignes dans la presse, pense qu'il va trouver un moyen de faire sauter ce verrou, de faire sauter d'abord le verrou Manchin Cinema, mais aussi de créer une sorte de recruter un peu plus des sénateurs qui sont disponibles pour être convaincus, comme l'ancien candidat à la présidence, le sénateur de l'État.
Mitt Romney.
Qu'on peut convaincre. Voilà, c'est ça, Mitt Romney. Et qu'on peut convaincre peut-être d'aller dans ce que Biden appelle le sens de l'histoire. Donc le sens de l'histoire, d'étendre le droit de vote, de le faciliter. Nous sommes dans le domaine, dans une période dominée par des moyens de communication extraordinaires, où on peut faire des transactions de plusieurs millions de dollars sur un simple téléphone. Et de l'autre côté, on veut nous faire croire que pour aller voter localement, même maintenant, ces procédures pour voter s'étendent aux élections locales, s'étendent aux élections pour les associations de parents d'élèves, pour les circonscriptions scolaires. Donc, on veut nous faire croire qu'il y a là une fraude et qu'il faudrait faire en sorte que tout soit surveillé. Que ce soit surveillé de façon partisane, parce qu'il y a un risque, mais un risque qui n'a jamais existé et qui ne s'est jamais manifesté, et qui donc, finalement, est plus une invention, un prétexte de réalité.
Monsieur Cohen, est-ce l'histoire qui se répète, selon vous?
Oui, c'est l'histoire qui se répète. Jusqu'à 1965, les Noirs ne pouvaient pas voter dans la majorité des États dans le sud des États-Unis. C'était simple. Vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de voter. Et maintenant, il y a des autres mesures. Par exemple, en Ohio, l'État d'Ohio l'autre jour, le Parlement d'Ohio a refait les circonscriptions. Et ils ont fait dans une manière que tous les Noirs d'Ohio étaient dans la même circonscription, presque 90%, au lieu d'être dans toutes les circonscriptions. Mais le tribunal constitutionnel de l'État d'Ohio a dit non, on ne peut pas faire ça. C'était délibérément discriminatoire contre les Noirs. Donc, ce n'est pas seulement dans le Sénat qu'on peut aider à avoir un système démocratique. Et les tribunaux constitutionnels sont pour quelque chose aussi. Et je me félicite.
Jean-Pierre Bonguila, les États-Unis à la croisée des chemins?
À la croisée des chemins, je dirais d'une manière ou d'une autre, parce que nous avons fait du chemin jusque-là. Comme pour revenir à la première question, est-ce que les États-Unis sont en train d'avancer ou c'est l'histoire qui se répète? Je dirais oui et non. L'histoire se répète parce que les obstructions pour ou contre le droit de voter auprès des Noirs continuent, pour les Noirs continuent. Les obstructions sont là, mais je dirais que l'histoire continue à avancer parce que les obstructions ne sont plus les mêmes qu'on a eu dans le passé où on devait payer une taxe pour voter, où on devait passer un test alphabétisation pour voter. Aujourd'hui, c'est des subterfuges tels que ceux qui sont en rang pour voter ne peuvent pas avoir de l'eau, ne peuvent pas avoir à manger et tout cela. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'histoire a progressé. Elle est là, mais elle a progressé. Maintenant, à la croisée du chemin, oui, parce que nous voyons que malgré ces avancées-là, il y a la démocratie qui est en danger aujourd'hui. Nous avons vu avec ce qui s'est passé avec l'ancien président Trump, cette invasion-là du Capitole américain. C'est maintenant comme un déclic pour les Américains pour savoir que la démocratie doit être protégée d'une manière ou d'une autre. Le pays est terriblement divisé. Beaucoup sont en faveur de Trump et de l'hégémonie de Trump, de l'hégémonie de républicains qui voudraient maintenir le statu quo, mais en même temps, nous savons que la démocratie va continuer à faire sa marche. Poutine a beaucoup joué pour que la démocratie tombe. Heureusement que les institutions américaines sont solides pour maintenir ce qu'il faut ou les sous-bassements de la démocratie. C'est cela que je trouve comme la croisée du chemin, c'est-à-dire que nous avons une lutte entre des forces qui sont en train de repousser la démocratie. Quand vous n'avez pas l'élection, où les minorités ne peuvent pas voter comme il faut, ça c'est une lutte contre la démocratie. Mais quand tout ceci sera débloqué, c'est alors que nous allons vers l'avant, la croisée du chemin signifie le passé et le présent. Je suis de plus en plus optimiste que le présent et le futur, que le futur va vaincre. J'accepte qu'il y a une croisée du chemin, mais le futur de la démocratie est positif.
C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous. Lionel Ndoundanila Gahima a assuré la mise en onde. Merci à Jean-Pierre Bonguida, professeur à l'Université Saint-Thomas dans le Minnesota. Merci à Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Et merci à Herman Cohen, ancien secrétaire d'État douan américain chargé de la RIC. Eric Manirafidza vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine.